Gioacchino Pecci, Sa Sainteté Léon XIII. La pratique de l'humilité. Gioacchino Pecci, devenu plus tard Léon XIII, est né en 1810. Il a reçu l'ordination sacerdotale en 1837. Grégoire XVI l'a nommé évêque de Pérouse en 1846. En 1878, il deviendra pape et prendra le nom de Léon XIII. Il est décédé en 1903. La pratique de l'humilité est un texte à caractère ascétique qui offre aux croyants un ensemble de claires orientations pour vivre et acquérir, en la pratiquant, la vertu de l'humilité. L'auteur s'adresse de manière particulière aux séminaristes de Pérouse, mais il semble aussi parler personnellement à chaque lecteur. Si tu désires ardemment acquérir cette perle précieuse, qui est le plus sûr gage de la sainteté, reçois avec docilité les avis que je te donne et mets-les fidèlement en pratique. La pratique de l'humilité. Le fondement de la perfection chrétienne, d'après le sentiment commun des pères de l'Église, est l'humilité. Pour se faire grand, dit saint Augustin, il faut commencer par se faire petit. Vous voulez élever l'édifice de la vertu chrétienne, mais sachez qu'il est d'une hauteur immense. Cherchez donc à le construire sur les bases profondes de l'humilité. Car celui qui veut bâtir une maison a soin avant tout de creuser les fondements en proportion des matériaux qu'il a à sa disposition et de la hauteur à laquelle il veut mener et conserver sa construction. Eh bien, très cher fils, ce livret que je vous dédie vous enseigne à pratiquer l'humilité, vous apprend à poser les fondements de la perfection chrétienne. Voyez donc de quelle importance est l'obligation d'observer d'une manière particulière le commandement de Jésus-Christ, qui prescrit d'être parfait comme son Père céleste. C'est pourquoi je suis certain de vous faire un cadeau agréable. Non seulement ce sera un nouveau gage de l'affection que je vous porte, mais ce sera encore un moyen de sauver votre âme, le salut étant la plus grande affaire que vous puissiez avoir entre les mains. Une autre raison qui m'a déterminé à rédiger cet ouvrage est votre prochain sacerdoce. Le but de votre vocation n'est pas seulement votre sanctification, c'est aussi le salut des autres, c'est l'extension du royaume de Jésus-Christ, en employant les mêmes moyens qu'il a employés pendant sa vie mortelle. Et l'humilité de cœur a été son caractère distinctif. Avec ces recommandations, vous pourrez vaincre l'orgueil du monde et planter dans tous les cœurs la mortification et l'humilité de la croix. Jésus-Christ a commencé par faire et a enseigné ensuite. Ainsi, vous, cher fils, si vous voulez suivre cet exemple, vous entrerez dans le ministère sacerdotal déjà formé à la pratique de l'humilité et de cette source intérieure et inépuisable. De toutes les vertus jailliront des paroles de bienveillance, d'encouragement, de zèle, qui affermeront les justes dans la sainteté et ramèneront les égarés du chemin du vice et de la perdition dans celui de la vertu et du salut. Que chacun de vous prenne cet opuscule que nous vous consacrons et qu'il s'imagine recevoir d'un maître supérieur des leçons sur la pratique de l'humilité. Et souvenez-vous toujours, cher fils, que vous ne pouvez pas me donner une consolation plus grande que celle de vous voir humble, doux et obéissant. Dans l'espérance de vous voir toujours tel, et dans le vif désir que vous le soyez réellement, je vous bénis tous dans le Seigneur, et je vous recommande de nouveau avec instance de mettre tout votre soin à faire tout ce que vous conseillera ce petit livre. Gioacchino Pecci, Léon XIII. La pratique de l'humilité. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Matthieu 9, 29. Il donne sa grâce aux humbles. Il est une incontestable vérité. Il n'y aura pas de miséricorde pour les orgueilleux. La porte du royaume des cieux leur sera fermée et le Seigneur l'ouvrira seulement aux humbles. Pour en être convaincu, il suffit d'ouvrir la Sainte Écriture. Elle enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, qu'il abaisse ceux qui s'élèvent, et que pour entrer dans le ciel, il faut être semblable aux enfants, que ceux qui n'auront pas cette ressemblance seront exclus du séjour de la gloire, enfin, qu'il ne répand ses grâces que sur les humbles. Malgré cela, nous ne saurons jamais assez nous convaincre de quelle importance il est pour tout chrétien, et principalement pour des prêtres, de s'appliquer à pratiquer l'humilité et à chasser de leur esprit la présomption, la vanité et l'orgueil. Il n'y a pas d'effort qu'on ne doive tenter, pas de fatigue qu'on ne doive supporter pour réussir dans une entreprise si sainte. Et comme on ne peut arriver au succès sans la grâce de Dieu, nous devons la demander fréquemment. Tout chrétien a contracté, dans le saint baptême, l'obligation de marcher sur les traces de Jésus-Christ, qui est le divin modèle sur lequel nous devons régler notre vie. Or, le Dieu Sauveur a pratiqué l'humilité à un degré tel qu'il a voulu être l'opprobre de la terre pour abaisser notre suffisance et pour guérir la plaie de notre orgueil, en nous enseignant par son exemple l'unique chemin qui mène au ciel. À proprement parler, cette leçon est la plus importante du Sauveur. Apprenez de moi. Toi, donc, disciple du divin Maître, si tu désires ardemment acquérir cette perle précieuse, qui est le plus sûr gage de la sainteté et la marque la plus certaine de la prédestination, reçois avec docilité les avis que je te donne et mets-les fidèlement en pratique. Premier point, ouvre les yeux de ton âme et considère que de toi-même tu ne possèdes aucun bien dont tu puisses tirer motif de te croire quelque chose. De toi tu as seulement le péché, la faiblesse et la misère. Et quant aux dons de la nature et de la grâce qui sont en toi, comme tu les as reçus de Dieu, qui est le principe de ton être, c'est à lui seulement que tu dois rapporter la gloire. Point 2. C'est pourquoi conçois un sentiment profond de ton néant et fais-le croître constamment dans ton cœur, en dépit de l'orgueil qui te domine. Persuade-toi intimement qu'il n'y a pas au monde chose plus vaine et plus ridicule que de vouloir être estimé pour les dons reçus exclusivement de la pure libéralité du Créateur. L'apôtre a dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» et aussi « Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Point 3. Pense fréquemment à ta faiblesse, à ton aveuglement, à ta bassesse, à ta dureté de cœur, à ton inconstance, à ta sensualité, à ton insensibilité pour Dieu, à ton attachement aux créatures et à tant d'autres inclinations mauvaises qui naissent dans ta nature corrompue. Tout cela sera pour toi un motif puissant de t'abaisser continuellement dans ton néant et d'être toujours plus petit et plus vil à tes propres yeux. Point 4. Garde toujours dans ta mémoire le souvenir des péchés de ta vie passée. Par-dessus tout, persuade-toi que le péché d'orgueil est un mal si abominable qu'aucun autre ne peut lui être comparé. L'orgueil est le péché qui fit tomber les anges du ciel et les précipita dans les abîmes. L'orgueil est le péché qui corrompit tout le genre humain et qui répandit sur le monde cette quantité infinie de maux qui dureront autant que le monde, ou pour mieux dire, autant que l'éternité. D'ailleurs, une âme souillée de péché n'est digne que de haine, de mépris et de supplice. Vois donc quelle estime tu peux faire de toi-même après tant de péchés que tu as commis. Point 5. Considère en outre qu'il n'y a pas de crime, quelque énorme et détestable qu'il soit, dont tu ne puisses, avec les entraînements de la mauvaise nature, te rendre coupable. Et que c'est seulement par la miséricorde de Dieu et par le secours de sa grâce que tu en es préservé jusqu'à présent. Selon la sentence de saint Augustin, il n'y a pas au monde de péché commis par un homme qui ne puisse être commis par un autre homme, si la main qui a fait l'homme manque de le soutenir. Pleure donc intérieurement sur un état si déplorable, et mets-toi résolument au nombre des indignes pécheurs. Point 5. Pense souvent que tôt ou tard, tu devras mourir et que ton corps tombera en putréfaction dans un tombeau, et toujours devant les yeux l'inexorable jugement de Jésus-Christ, devant lequel tous comparaîtront nécessairement. Médite sur les éternelles douleurs de l'enfer et sur les supplices préparés aux méchants, spécialement aux imitateurs de Satan, que sont les orgueilleux. Considère sérieusement qu'à travers ce voile impénétrable qui cache à l'œil des mortels les divins jugements, tu cours le risque d'être au nombre des réprouvés, de tomber dans le lieu des tourments éternels, en compagnie des démons, et d'en être une victime éternelle. Cette incertitude seule doit te tenir dans une extrême humilité et t'inspirer la crainte la plus salutaire. Point 7. Ne te flatte jamais de pouvoir acquérir l'humilité sans quelque pratique particulière qui lui convienne, comme seraient les actes de douceur, de patience, de mortification, de mépris de toi-même, de renoncement à ton sentiment, à tes opinions, le repentir de tes péchés et autre chose semblable. Ces pratiques sont les seules armes qui détruisent en toi le règne de l'amour-propre et qui émondent ce terrain affreux dans lequel germent tous les vices et où croissent merveilleusement l'orgueil et la présomption. Point 8. Autant que possible, tiens-toi dans le silence et le recueillement. mais, toutefois, sans désagrément pour personne. Quand tu seras forcé de parler, fais-le avec retenue, modestie et simplicité. S'il t'arrive de n'être pas écouté par mépris ou par autre motif, ne te montre pas ému. Au contraire, accepte cette humiliation et supporte-la avec résignation et tranquillité. Point 9. Garde-toi bien de proférer des paroles hautaines, orgueilleuses et indiquant une prétention à la supériorité. Évite avec soin les phrases étudiées et les bons mots frivoles. Passe toujours sous silence tout ce qui te concerne et qui peut te faire passer pour une personne d'esprit digne d'attirer l'estime. En un mot, ne parle jamais de toi sans un juste motif et ne dis rien qui tende à te procurer des honneurs et des louanges. Point 10. Dans les conversations, abstiens-toi de railler et de mortifier les autres par des paroles et des sarcasmes. Évite tout ce qui sent l'esprit du monde. Ne parle pas d'un ton de maître de choses spirituelles et réserve ton opinion si les devoirs de ta charge ou la charité ne t'obligent à faire le contraire. Contente-toi de parler de ces choses en interrogeant ceux qui les connaissent et qui peuvent te donner de salutaires avertissements. Car vouloir faire le maître sans nécessité, c'est vouloir ajouter du bois au feu qui brûle, c'est-à-dire embraser notre âme qui déjà s'en va toute en fumée d'orgueil. Point 11. Réprime de tout ton pouvoir les vaines et inutiles curiosités. Pour cela, ne sois pas trop empressé de voir les choses que les mondains appellent belles, rares et magnifiques. Concentre-toi sur ce qui est ton devoir et qui peut servir à ta perfection et à ton salut. Point 12. Tu seras exact et attentif à te montrer toujours plein de respect et de révérence pour tes supérieurs, d'estime et de courtoisie pour tes égaux et de charité pour tes inférieurs. Persuade-toi que te comporter autrement ne peut être que l'inspiration d'un esprit gouverné par l'orgueil. Point 13. Suivant la maxime du Saint-Évangile, prends toujours la dernière place dans la sincère persuasion que c'est celle-là précisément qui te convient. Ainsi, dans tous les besoins de la vie, garde-toi de les exagérer, d'étendre trop tes désirs et tes soucis. Contente-toi de choses simples et modestes comme convenant mieux à ta pauvreté. Point 14. Si les consolations temporelles viennent à te manquer et si Dieu t'enlève les douceurs spirituelles, pense que tu en as joui toujours avec abondance au-dessus de tes mérites et sois content de la manière dont le Seigneur te traite. Point 15. Cultive toujours en toi la saine, sainte habitude de t'accuser, de te réprimander et de te condamner. Sois un juge sévère de tes actions qui sont toujours accompagnées de mille défauts et de continuelles prétentions suggérées par l'amour propre. Conçois souvent un juste mépris de toi-même en te voyant dépourvu dans tes actions de prudence, de simplicité et de pureté de cœur. Garde-toi, point 16, comme d'un mal très grave, de juger les actes d'autrui, mais interprète avec bonté les paroles et les actions, cherchant avec une bienveillante charité les raisons d'excuse et de défense. Si l'évidence du mal rend la défense impossible, tâche de l'atténuer autant que possible en l'attribuant ou à l'inadvertance ou à la surprise, ou à une autre cause semblable, selon les circonstances. Au moins, n'y pense plus si tu n'es pas obligé par ta charge d'y porter remède. Point 17. Ne contredis jamais personne dans les conversations, alors même qu'on traite des choses douteuses qui peuvent être prises aussi bien dans un sens que dans un autre. Dans les discussions, ne t'enflamme pas et si ton opinion est trouvée fausse ou moins bonne, cède modestement et reste dans un humble silence. Cède encore et comporte-toi de la même manière dans les choses de peu d'importance, même quand tu es certain de la fausseté de l'opinion contraire. Dans toutes les occasions où tu dois défendre la vérité, fais-le avec courage, mais sans fureur et sans mépris. Et sois certain que tu la défendras mieux avec la douceur qu'avec la violence et le dédain. Point 18. Garde-toi bien de causer aucun déplaisir à personne par tes paroles ou par tes actions, ou par ta manière de faire, à moins que tu ne sois contraint d'agir ainsi par devoir, par obéissance ou par charité. Point 19. S'il arrive que quelqu'un soit sans cesse à t'importuner et à t'ennuyer en cherchant à te mortifier en toute occasion par des outrages ou des injures, ne t'irrite pas, mais regarde-le comme un instrument dont se sert la miséricorde de Dieu pour ton grand bien, pour guérir la plaie invétérée de ton orgueil. Point 20. La colère est un vice détestable chez tout le monde, mais surtout chez les personnes spirituelles. La colère tire sa violence de l'orgueil d'où elle a ses racines. Applique-toi donc à te faire un bon capital de douceur, afin que, si quelqu'un t'outrage, Quelque peine que tu ressentes dans ton cœur, tu aies la force de te maintenir dans les limites du calme. Et en ce cas, garde-toi bien de nourrir et de conserver dans ton cœur des sentiments d'aversion ou de vengeance contre celui qui t'a offensé. Pardonne-lui de grand cœur, persuadé que tu ne peux avoir de meilleure disposition pour obtenir de Dieu le pardon de tes fautes. Sois certain que cette humble patience te vaudra de grands mérites pour le ciel. Tu seras, point 21, bon et patient pour les défauts et la faiblesse des autres, ayant toujours devant les yeux ta propre misère pour laquelle tu as besoin aussi d'être supporté. Point 27. Montre-toi humble et doux avec tous, mais plus encore avec ceux pour lesquels tu éprouves une certaine répugnance ou aversion. Ne dis pas, comme disent quelques-uns, que Dieu me garde d'avoir de la haine pour telle personne, mais je ne peux la supporter près de moi et je ne veux rien avoir à faire avec elle. Sois certain que cette répugnance vient de l'amour-propre et de la nature orgueilleuse, qui n'a pas été vaincue par la grâce. Car si les hommes s'abandonnaient vraiment aux inspirations de la grâce, poussés par une véritable humilité, ils sentiraient bien vite s'estomper les difficultés rencontrées et supporteraient avec patience les caractères les plus durs et les plus grossiers. Point 23. S'il t'arrive un chagrin, bénis le Seigneur qui a disposé ainsi les choses pour ton bien. Pense que tu l'as mérité, que tu mérites plus encore et que tu es indigne de consolation. Tu pourras demander au Seigneur avec toute simplicité qu'il te délivre de cet ennui, si c'est son bon plaisir. Autrement, prie-le de te donner la force pour supporter la peine avec mérite. Dans tes croix, ne cherche pas les consolations extérieures, surtout quand tu sais reconnaître que Dieu te les envoie pour t'humilier et pour briser ton orgueil et ta présomption. Mais tu dois dire alors avec le prophète royal, « C'est un bien pour moi que d'être humilié afin d'apprendre tes volontés. » Psaume 118. Point 24. Par le même motif, dans tes repas, tu ne dois pas te montrer difficile et dédaigneux des aliments qui ne conviennent pas à ton goût. Mais alors tu feras comme font les pauvres de Jésus-Christ, qui mangent de bon cœur ce qu'on leur apporte et qui en remercient la Providence. Si les autres te blâment à tort, point 25, si tu vois censurer ta conduite par quelqu'un qui est ton inférieur et qui a plus besoin de toi que toi de faire attention à lui-même, ne te laisse pas emporter par le mépris, ne rejette pas les avis qui te sont donnés et ne refuse pas d'examiner la conduite, ta conduite, avec calme et à la lumière de Dieu. Et cela dans l'intime persuasion, que tu peux tomber à chaque pas si la grâce du Seigneur ne te retient. Point 26. Ne jamais désirer d'être singulièrement aimé. L'amour dépendant de la volonté et de la volonté par sa nature, cherchant le bien, il s'ensuit que l'être aimé et l'être estimé pour le bien sont une même chose. Or, le désir d'être singulièrement estimé ne peut être concilié avec une sincère humilité. Que de fruits tu porterais en agissant ainsi? Ton âme, ne désirant plus l'amour des créatures, se cachera dans les plaies sacrées du Sauveur. Dans le cœur adorable de son Jésus, elle sentira les inénarrables douceurs divines. Ayant renoncé généreusement pour Dieu à l'amour des hommes, ton âme goûtera avec abondance le miel des consolations divines, qui sont refusées à ceux qui cherchent les douceurs trompeuses des consolations terrestres. Puis les consolations divines sont si pures et si vraies qu'elles ne souffrent aucun mélange avec les consolations d'ici-bas, et nous sommes remplis de celles-là à mesure que nous nous dégoûtons de celles-ci. D'autre part, ton âme pourra se tourner librement vers Dieu, et par ta pensée de sa présence, se reposer dans la jouissance de ses perfections infinies. Enfin, comme il n'y a pas de chose plus douce que d'aimer et d'être aimé, si tu te prives de ce plaisir pour l'amour de Dieu, et afin que le Seigneur possède seul ton cœur, tu offriras un sacrifice agréable au souverain maître et qui te sera souverainement méritoire. En faisant ainsi, ne crains pas de refroidir la charité pour le prochain. Tu l'aimeras au contraire d'un amour plus pur et plus vrai, parce qu'il sera plus désintéressé. Et ainsi, tu ne suivras pas ton inclination, mais seulement le désir de plaire à Dieu en faisant ce que tu sais lui être agréable. Tu feras toutes tes actions, point 27, si petites qu'elles soient, avec beaucoup d'attention, avec diligence et exactitude. Faire les choses avec légèreté et précipitation est l'effet de la présomption. Et celui qui est vraiment humble se tient sur ses gardes et craint de manquer dans les plus petites choses. Pour le même motif, tu pratiqueras toujours les exercices de pitié, piété, qui sont plus communs et tu fuiras en général toutes les choses extraordinaires que peut te suggérer ton inclination. De même que l'orgueil veut toujours faire quelque chose de singulier, ainsi celui qui est humble trouve son plaisir dans les actions communes et ordinaires. Persuade-toi, point 28, que tu n'es pas un bon conseiller de toi-même, et que pour cela tu dois te méfier de tes jugements comme de ceux qui viennent d'un fond gâté et corrompu. Avec cette persuasion, tu prendras toujours conseil autant que possible d'un homme sage et consciencieux, et tu aimeras plutôt d'être instruit par quelqu'un de meilleur que toi que de suivre tes intentions. Même si tu es arrivé à un haut degré de grâce et de vertu, point 29, même si tu as reçu de Dieu le don de raison à un haut degré, même si tu as vécu 1000 ans dans l'innocence et dans la ferveur de la dévotion, tu dois néanmoins te méfier de toi-même, spécialement en matière de chasteté. Souviens-toi que tu portes au-dedans de toi un foyer inextinguible et une source intarissable de péché, et sache que tu es tout faiblesse, inconstance et infidélité. Sois donc toujours attentif à toi-même. Ferme les yeux pour ne pas voir et pour ne pas sentir ce qui peut souiller ton âme. Fuis toujours les occupations dangereuses. Tu éviteras les conversations inutiles avec les personnes de l'autre sexe. Et en cas de nécessité, tu te tiendras dans la plus scrupuleuse modestie et dans une grande retenue. Enfin, puisque sans la grâce de Dieu tu ne peux rien, prie continuellement le Seigneur, invoque sa miséricorde. Demande à sa bonté de ne pas te laisser un seul moment abandonné à toi-même. Point 30, tu as peut-être reçu de Dieu de grands talents, ou bien par hasard tu passes dans le monde pour être fort. Tu devras alors t'efforcer pour te connaître davantage et savoir ce que tu es réellement. Tu chercheras avec une industrieuse expérience à te convaincre de ta faiblesse, de ton incapacité et de ton néant. Tu devras te faire plus petit qu'un petit enfant. Tu ne prendras aucun plaisir aux louanges des hommes et tu te garderas bien d'avoir de l'ambition pour les honneurs. Les louanges et les honneurs doivent toujours être méprisés. Si l'on te fait une grave injure, point 31, ou si l'on te cause un vif déplaisir, au lieu de te fâcher contre celui qui t'a offensé, tu lèveras les yeux au ciel et tu regarderas le Seigneur qui, dans son infinie et aimable providence, a disposé ainsi les choses pour te faire expier tes péchés ou pour détruire en toi l'esprit d'orgueil, en te forçant à faire des actes de patience et d'humilité. Point 32, quand il se présente une occasion de rendre au prochain un service bas et répugnant, fais-le avec joie et avec toute l'humilité que tu devrais avoir si tu étais le serviteur de tous. De cette pratique, tu tireras d'immenses trésors de vertu et de grâce. 33. Ne t'inquiète pas des choses qui ne te regardent pas et desquelles tu n'as aucun compte à rendre, ni devant les hommes ni devant Dieu. Cette ingérence vient d'un orgueil secret et d'une vaine présomption de soi-même. Elle nourrit et fait croître la vanité et engendre une infinité d'ennuis, d'inquiétudes et de distractions. Au contraire, en ne faisant attention qu'à toi-même et à ton devoir, tu trouveras une source de paix et de tranquillité, selon cette belle sentence du livre de l'Imitation de Jésus-Christ. Ne t'ingère pas dans ce qui ne t'a pas été confié, alors tu seras peu ou rarement troublé. 34. Si tu fais quelques mortifications extraordinaires, persuade-toi bien de te préserver du venin de la vaine gloire qui en détruit souvent tout le mérite. Persuade-toi que tu fais cela parce que il n'est pas convenable à un pécheur comme toi de vivre selon ses aises et ses plaisirs. Et crois bien que tu le fais pour racheter tes défauts et tes dettes devant la justice divine. Réfléchis que les œuvres de pénitence te sont aussi nécessaires pour arrêter la violence de tes passions et pour te maintenir dans les limites du devoir, que la bride et le frein sont nécessaires pour dompter un cheval impétueux. 35. Chaque fois que tu te sentiras porté à l'impatience et à la tristesse dans tes tribulations et tes humiliations, résiste fortement à cette tentation, te souvenant de tes nombreux péchés pour lesquels tu as mérité des châtiments plus durs que ceux que tu souffres. Alors l'infinie justice de Dieu reçoit respectueusement ses coups, qui doivent être considérés par toi comme des fontaines de miséricorde et de grâce. Si tu pouvais comprendre combien il est salutaire pour toi d'être frappé en cette misérable vie par la main d'un Père aussi doux que Dieu, tu t'abandonnerais certainement alors tout entier à sa puissance. Répète souvent avec saint Augustin, « Seigneur, dans cette misérable vie, brûlez, taillez en moi tout ce que vous voulez. Ici-bas, ne m'épargnez pas, afin que vous m'épargniez et me pardonniez dans l'éternité. » Refuser les tribulations est une rébellion contre la justice de notre Dieu et un refus de boire le calice qu'il nous présente dans sa miséricorde, et que Jésus-Christ, bien qu'innocent, a voulu boire le premier. 36. Si par accident tu commettais une faute dont quelqu'un fut témoin et prendrait là occasion de te mépriser, aie alors une vive douleur d'avoir offensé Dieu et d'avoir donné un mauvais exemple à ton prochain. Mais quant au mépris et au déshonneur que tu as éprouvé, reçois-les comme un moyen, choisi par Dieu, pour te faire expier ton péché et te rendre plus humble et plus vertueux. Au contraire, si la crainte du déshonneur te tourmente, crois-moi, tu n'as pas la vraie humilité, et tu es encore empoisonné par l'orgueil. Demande alors au Seigneur, avec plus d'insistance, qu'il te guérisse de la superbe et qu'il te sauve. Car si Dieu n'a pas compassion de toi, tu tomberas certainement dans d'autres abîmes. 37. Si parmi tes collègues tu en trouves qui soient méprisables et de nulle valeur, tu agiras en homme sage et prudent. Si, au lieu de noter et de censurer les défauts, tu considères les bonnes qualités de la nature et de la grâce qui viennent de Dieu et qui le rendent digne de respect et d'honneur. Tout au moins tu verras toujours dans tes semblables une créature de Dieu faite à son image, rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ, chrétien marqué de la lumière du visage de Dieu, une âme capable de voir et de posséder Dieu pendant l'éternité, et peut-être un prédestiné dans les conseils secrets de la providence divine. Sais-tu quelle grâce le Seigneur a répandue et répandra dans le cœur de ton prochain? Mais, sans faire toutes ces considérations, il serait mieux de chasser sans retard ces pensées de mépris comme le souffle empoisonné du tentateur. 38. Quand on te flatte au lieu de t'en réjouir, crains que cette louange ne soit toute la récompense du peu de bien que tu as fait. Reconnais intérieurement ta misère pour laquelle tu mériterais le mépris des autres et cherche à détourner la conversation non pour t'attirer des éloges à la manière des orgueilleux qui font semblant d'être humbles, mais avec une sainte prévoyance, de manière à ce qu'on ne pense plus à tes actions. Si tu ne réussis pas, rapporte à Dieu seul, à l'instant même, tout l'honneur et toute la gloire, disant avec Baruch et Daniel, « À toi, Seigneur, la gloire de toute justice, et à nous la honte et la confusion. » 39. Autant tu dois éprouver de dégoût d'entendre faire ton éloge, autant tu dois éprouver de plaisir quand tu vois les autres flattés et honorés, et de ton côté tu te mettras à l'unisson, autant que la sincérité et la vérité te le permettent. Les envieux ne peuvent souffrir la gloire du prochain, parce qu'ils accroissent une diminution de la leur propre. Et pour cela, dans les conversations, ils jettent adroitement certaines réticences ou certaines paroles à double sens pour diminuer ou rendre suspectes les louanges qu'ils entendent faire des autres. Toi, tu ne feras pas ainsi. Mais en louant ton prochain, tu loueras en même temps le Seigneur et tu le remercieras des dons qu'il lui a faits et des services qu'il en retire. 40. Quand dans les conversations tu entendras diffamer ton prochain, tu en éprouveras une vive et vraie douleur. Et tu chercheras au dedans de toi à excuser la faiblesse du médisant. Mais d'un autre côté, tu dois défendre l'honneur de cette pauvre personne qui est attaquée. Et tu dois le faire avec une sage habileté, de manière que la défense ne soit pas par accident, une seconde accusation. C'est-à-dire que tu parleras de ses belles qualités ou bien tu feras remarquer l'estime qu'en font les autres, estime que tu partages. D'autres fois, tu changeras prudemment la conversation. Enfin, tu feras paraître en quelque manière le déplaisir que tu éprouves. En agissant ainsi, tu te feras un très grand bien à toi-même et tu en feras aux médisants, aux auditeurs et à celui de qui l'on parle. Mais si sans te faire aucune violence, tu te sens heureux quand ton prochain est abaissé et malheureux quand il est élevé. Alors combien il te reste encore à faire pour posséder l'incomparable trésor de l'humilité. 41. Il n'y a pas pour l'avancement spirituel autre chose plus avantageuse que d'être averti de ses défauts. Il convient et il est nécessaire d'encourager ceux qui ont quelquefois fait cette charité à continuer leur bonne volonté en toute occasion. Et après avoir reçu leurs avis avec joie et reconnaissance, fais-toi un devoir de les suivre non seulement pour l'avantage de te corriger, mais encore pour faire voir à ses amis fidèles que leurs soins à ton égard n'ont pas été vains et que tu leur es reconnaissant de leur bienveillance. L'orgueilleux, même quand il se corrige, ne veut pas sembler suivre les avis salutaires qu'il a reçus. Même, il les méprise. Mais celui qui est vraiment humble se fait gloire de se soumettre à tous, pour l'amour de Dieu, et regarde les sages conseils qu'il reçoit comme venant de Dieu, quel que soit l'instrument dont il se sert. Abandonne-toi entièrement à Dieu, point 42. Pour suivre les dispositions de son aimable providence, comme un tendre fils s'abandonne entre les bras de son père bien-aimé. Laisse-le faire tout ce qu'il voudra sans te troubler ni t'inquiéter de ce qui t'arrive. Accepte avec joie et avec confiance et respect tout ce qui viendra de lui. Faire autrement serait un grave acte d'ingratitude envers la bonté du cœur de Dieu. Ce serait une défiance envers sa miséricorde. L'humilité nous abaisse infiniment sous l'être infini de Dieu. Mais, en même temps, elle nous enseigne que Dieu est toute notre force et toute notre consolation. 43. Il est évident que sans Dieu, tu ne peux jamais rien faire de bon, que tu peux tomber à chaque pas et que la moindre tentation suffit pour te faire succomber. Or, reconnais-toi toujours faible et impuissant à faire le bien, et souviens-toi qu'en toutes tes actions, tu as besoin du secours divin. Par ses pensées, tiens-toi inséparablement, uni à Dieu, comme un petit enfant qui ne connaissait d'autre appui plus sûr se serre contre le sein de sa mère. Répète avec le prophète royal, « Si le Seigneur ne m'eût secouru, je serais présent dans la tombe. » Psaume 93. Et regarde en moi, regardez en moi, Seigneur, je suis seul et je suis pauvre. Psaume 24. Et encore Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Psaume 69. Enfin, ne cesse de rendre grâce à Dieu avec toute l'effusion de ton cœur et surtout remercie-le de la protection qu'il t'accorde et prie-le constamment qu'il veuille bien te donner les secours particuliers dont tu as besoin et qui ne peuvent venir que de lui seul. Chapitre 44. Dans l'oraison, tu devras avoir une grande confusion de toi-même, un abaissement profond et une sainte frayeur de la présence de la suprême majesté à laquelle tu oses recourir. Parlerai-je à mon Seigneur, moi qui suis cendre et poussière. Genèse 17, 27. Si tu reçois quelque faveur extraordinaire, tu dois t'en croire indigne et savoir que c'est Dieu qui te l'a accordé gratuitement et par pure miséricorde. Garde-toi bien de croire que cette faveur soit ton œuvre et n'en tire aucune vanité. Si tu ne reçois aucun don particulier, ne sois pas pour cela mécontent, mais tu devras considérer qu'il te reste encore bien à faire pour mériter une faveur et que Dieu est bon et bien patient de te souffrir à ses pieds comme le pauvre qui attend des heures entières à la porte du riche pour avoir une petite aumône pour le soulagement de sa misère. Empresse-toi, 35, de rendre à Dieu toute la gloire, des heureux succès dans les affaires qui te sont confiées et ne t'attribue autre chose que les défauts qui s'y trouvent parce qu'ils sont exclusivement ton œuvre. Tout bien vient de Dieu et à lui seul en appartient la gloire et la reconnaissance. Imprime bien profondément cette vérité dans ton esprit et ne l'oublie jamais. Et crois qu'une autre personne ayant reçu les mêmes grâces que toi sera meilleure que toi et n'aurait pas commis tant d'imperfections. Rejette les louanges qu'on te donne pour les heureux résultats que tu obtiens. On ne doit aucun éloge à un vil instrument comme toi, mais on doit tout au grand, immense et éternel artisan, qui peut, s'il le veut, se servir d'une verge pour faire jaillir l'eau du rocher ou d'un peu de terre pour rendre la vue aux aveugles et opérer une infinité de miracles. 46. Si au contraire les affaires qui te sont confiées ne réussissent pas, il y a beaucoup à craindre que l'insuccès ne doive être attribué à ton incapacité ou à ta négligence. Ton amour-propre et ton orgueil, pour éviter une humiliation, voudrait bien le rejeter sur le compte des autres, ne pouvant autrement atténuer la faute. Mais toi, ne suis pas ces inclinations vicieuses. Examine consciencieusement ta conduite et, craignant d'avoir manqué, demande pardon à Dieu et accepte l'humiliation comme un châtiment mérité. Si ensuite ta conscience ne te reproche aucune faute, adore encore les dispositions de Dieu et pense que tes péchés et la trop grande confiance en toi-même ont éloigné de tes travaux les bénédictions du ciel. Si tu portes à la Sainte Communion un cœur tout enflammé du divin amour, tu dois y porter encore un esprit pénétré des sentiments d'une vraie humilité. Et comment ne pas t'étonner à la pensée qu'un Dieu infiniment pur et infiniment saint est pour une misérable créature comme toi un amour tel qu'il se donne en nourriture. Abaisse-toi dans la profondeur de ton indignité. Approche de cette adorable sainteté avec le plus grand respect. Et quand tu seras en possession de cet aimable Seigneur, qui est tout charité dans ce sacrement, et lorsque dans cette communication tu jouiras de douceurs ineffables, garde-toi bien de laisser diminuer en toi le respect pour l'infinie majesté. Tiens-toi toujours à ta place, c'est-à-dire dans la soumission, dans l'abaissement et le néant. Mais dans ce sentiment de ta pauvreté et de ta misère, ne te rétrécira pas le cœur et ne t'enlèvera pas la sainte confiance que tu dois avoir dans ce céleste banquet. Bien plus, tu croîtras dans l'amour pour ton Dieu qui s'humilie jusqu'à se faire l'aliment de ton âme. 48. Tu auras pour le prochain des entrailles de charité, avec beaucoup d'affabilité et de douceur, et tu chercheras avec une sainte avidité à lui plaire en toutes choses. Mais tu le feras toujours pour plaire à Dieu, pour plaire au Seigneur. Examine bien les motifs qui te font agir, et ainsi tu découvriras les pièges que te tendent la vanité et l'amour-propre. Et rapporte à Dieu seul tout le bien que tu feras, car tu dois savoir qu'une bonne œuvre, qui n'est connue que de Dieu seul, te vaut un inestimable trésor. Si par ta négligence cette bonne action vient à la connaissance des hommes, elle perd presque toute sa valeur, comme un beau fruit qui a été entamé par les oiseaux. 49. Que la crainte salutaire que tu dois avoir de déplaire au Seigneur soit toujours accompagnée de soupirs intérieurs pour Dieu, en te voyant dans le continuel danger de tomber, afin qu'il veuille bien, dans son infinie miséricorde, t'épargner un si grand malheur. Ces soupirs intérieurs sont les gémissements du cœur recommandés par les saints, qui portent à faire attention à soi-même et à ses propres actions, qui font méditer sur les vérités divines, le mépris des choses temporelles, et qui disposent à prier et à se tenir éloigné de tout ce qui n'est pas Dieu. En un mot, cette oraison intérieure est la source de la vraie humilité et de la pauvreté d'esprit. Fais-en un usage fréquent, et que ce soit, autant que possible, ta continuelle prière. 50. Un malade qui désire ardemment sa guérison prend les plus grandes précautions pour éloigner de lui tout ce qui pourrait la retarder. Il prend avec modération les aliments même les plus sains, et à chaque bouchée il observe s'ils lui sont nuisibles ou utiles. Ainsi tu dois faire si tu désires de tout ton cœur guérir de la funeste maladie de l'orgueil, et si tu veux vraiment acquérir le trésor précieux de l'humilité. Si tu désires ainsi ta guérison, tu seras attentif à ne rien faire qui puisse l'empêcher, et en toute occasion tu observeras ce qui peut te faire arriver à l'humilité ou t'en éloigner, et alors tu le feras tout de suite avec joie ou le rejetteras tout à fait. 51. Un autre motif propre à te faire pratiquer la belle vertu d'humilité est l'exemple de notre divin Sauveur, sur lequel nous devons continuellement nous modeler. Il a dit dans le Saint-Évangile « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11-29. Et en effet, comme le dit Saint Bernard, quel est l'orgueil qui ne peut être éteint par l'humilité de ce divin Maître? On peut dire en toute vérité que notre divin Sauveur seul s'est humilié et abaissé, et que nous, quand nous faisons semblant de nous humilier, nous ne nous abaissons aucunement, mais nous prenons seulement la place qui nous convient. Étant de viles créatures coupables de mille fautes, nous n'avons droit qu'au néant et à la peine. Mais Jésus-Christ s'est infiniment abaissé et anéanti. Il est le Dieu Tout-Puissant, l'être infini et immortel, l'arbitre suprême de toutes choses. Et cependant, il s'est fait homme, faible, passible, mortel, et obéissant jusqu'à la mort. Il a supporté tous les défauts des choses temporelles. Celui qui fait dans le ciel la joie et le bonheur des anges et des saints a voulu être l'homme des douleurs et supporter toutes les misères de l'humanité. La sagesse incréée et le principe de toute sagesse a souffert la honte et l'opprobre d'un insensé. Le saint et la sainteté par essence a voulu passer pour un scélérat et un malfaiteur. Celui que dans le ciel une couronne innombrable de saints adore a voulu mourir honteusement sur une croix. Enfin, le souverain bien par nature a souffert toutes les misères de la terre. Et après un tel exemple, que ne devons-nous pas faire, nous, cendres et poussières? Et quelle humiliation pourra nous paraître dure à nous qui sommes non seulement de petits vermisseaux, mais encore, et ce qui est plus triste, de misérables pécheurs. 52. Considère encore les saints de l'ancienne et la nouvelle alliance. Isaïe, ce prophète si vertueux et si zélé, se croyait impur devant Dieu et confessait que toutes ses bonnes œuvres étaient comme un drap rempli de souillures. Daniel, que Dieu lui-même appelle un homme saint, capable d'arrêter par ses prières la colère divine, parlait au Seigneur avec l'humilité d'un pécheur qui doit être toujours couvert de confusion et de honte. Saint Dominique, miracle d'innocence et de sainteté, était tellement pénétré de mépris pour lui-même qu'il croyait attirer les malédictions du ciel sur les cités par lesquelles il devait passer. Et, pour cela, avant d'entrer dans une ville, il se prosternait la face contre terre et disait en versant des larmes, « Je vous conjure, Seigneur, par votre aimable miséricorde, de ne pas regarder mes péchés. Et faites, ô mon Dieu, que cette cité qui me reçoit dans ses murs n'éprouve pas pour cela les effets de votre juste vengeance. » Saint François, qui mérita, par la pureté de sa vie, de devenir l'image de Jésus crucifié, croyait fermement et certainement être le pécheur le plus méchant de la terre. Et cette idée était tellement entrée dans son esprit que personne n'aurait jamais pu la lui enlever. Il en donnait cette raison que si Dieu avait accordé tant de grâce au dernier des hommes, plutôt qu'à lui-même, celui-là en aurait mieux usé et n'aurait pas récompensé le Seigneur par tant d'ingratitude. Plusieurs autres saints se croyaient indignes de la nourriture qu'ils mangeaient, de l'air qu'ils respiraient et des vêtements dont ils se couvraient. D'autres regardaient comme un grand miracle de la miséricorde divine qu'elle les supporta sur la terre et ne les précipita pas dans l'enfer. Quelques-uns s'étonnaient de ce que les hommes les supportaient et ne s'unissaient pas pour les exterminer et les anéantir. Enfin, tous les saints ont eu horreur des dignités, des louanges et des honneurs, et pour se mépriser, ils ne désiraient que les humiliations et les opprobres. Es-tu par hasard plus éclairé et plus saint qu'eux? Pourquoi, à leur exemple, ne te fais-tu pas petit à tes propres yeux? Pourquoi, comme les saints, ne places-tu pas toutes tes délices dans la sainte humilité? 53. Pour croître davantage dans cette vertu et pour te rendre douces et familières les humiliations, il te sera utile de t'imaginer de plus grands affronts que tu pourrais recevoir et de les accepter à la honte de ta nature rebelle comme des témoignages particuliers de l'amour que Dieu nourrit pour toi et comme des moyens sûrs pour te sanctifier. Pour faire cela, tu devras soutenir de grands combats, mais aie courage et sois fort dans la guerre, jusqu'à ce que tu te sentes décidé et résolu à souffrir avec joie pour l'amour de Jésus-Christ. 54. Ne passe pas de jour sans te faire les reproches que pourraient te faire tes ennemis, non seulement pour les diminuer, mais encore et surtout pour te conserver dans l'abaissement et le mépris de toi-même. Si, dans la tempête de quelques violentes tentations, il t'arrive de te sentir porté à l'impatience et de murmurer intérieurement contre les épreuves que Dieu t'envoie, réprime à temps ces mouvements et dis toi-même « Un vil et misérable pécheur comme moi peut-il se plaindre de cette tribulation? Mais n'ai-je pas mérité des châtiments plus durs? Mais ne sais-tu pas, mon âme, que les humiliations et les souffrances sont le vrai pain de l'aumône du Seigneur pour te soutenir dans la misère et l'indigence ?» Ah, si tu refuses ce pain, tu n'en es pas digne, et tu repousses un riche trésor qui te sera peut-être enlevé et donné à un autre qui en fera meilleur usage que toi. Le Seigneur veut te mettre au nombre de ses amis et des vrais disciples du calvaire, et toi, par lâcheté, refuseras-tu le combat. Et comment voudrais-tu être couronné si tu n'as pas combattu? Comment voudrais-tu avoir droit à la récompense si tu n'as pas porté le poids du jour et de la chaleur? Ces réflexions et autres semblables rallumeront ta ferveur et te feront désirer de passer ta vie au milieu des souffrances et des humiliations en imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. 55. Quoique tu jouisses de la paix et de la tranquillité dans le mépris et les contradictions, tu ne dois pas pour cela être certain de posséder une humilité victorieuse. L'orgueil n'est souvent qu'endormi et il se réveille, il recommence ses ravages dans l'âme. L'exercice de la connaissance de toi-même, la fuite des honneurs et l'amour des humiliations sont tes armes et tu ne dois pas les abandonner un seul instant. Et ainsi tu auras acquis un riche héritage que tu ne craindras plus de perdre parce qu'il va falloir t'humilier toujours davantage pour conserver le don précieux de l'humilité. 56. Afin que Dieu t'accorde plus facilement une telle faveur, prends pour ton avocate et protectrice la très sainte Vierge. Saint Bernard dit que Marie, plus qu'aucune autre créature, s'est humiliée, et qu'étant la plus grande de toutes, elle s'est faite la plus petite par le profond abîme de son humilité. Précisément pour cela, Marie a reçu la plénitude de la grâce et a été digne d'être la mère de Dieu. Marie est en même temps une mère de miséricorde et de tendresse à laquelle on n'a jamais recours en vain. Abandonne-toi plein de confiance dans son sein maternel. Conjure-la de vouloir bien t'obtenir cette vertu qui lui fut si précieuse et ne crains pas qu'elle ne veuille pas s'en occuper. Non, Marie la demandera pour toi à ce Dieu qui élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Et comme Marie est toute puissante auprès de son Fils, elle sera certainement exaucée. Recours à elle dans toutes tes peines, dans tous tes besoins, dans toutes tes tentations. Que Marie soit ton appui, que Marie soit ta consolation. Mais la principale grâce que tu dois lui demander est la sainte humilité. Tu ne cesseras jamais de la supplier jusqu'à ce qu'elle t'ait obtenue. Ne crains pas de trop l'importuner. Oh, combien Marie aime cette importunité pour le salut de ton âme et pour te rendre plus agréable à son divin Fils. Enfin, pour te la rendre plus favorable et plus propice, tu la prieras par son humilité, qui fut la cause de son élévation à la dignité de Mère de Dieu et par sa maternité divine, qui fut le fruit ineffable de son humilité. 57. Pour le même motif, tu auras recours aux saints qui ont pratiqué cette éminente vertu avec plus d'éclat. Par exemple, tu prieras Saint Michel l'archange, qui a été le premier humble comme Lucifer a été le premier orgueilleux. Saint Jean-Baptiste, qui bien que parvenu à une sainteté telle qu'il était pris pour le Messie, avait de lui-même des sentiments si humbles qu'il se croyait indigne de délier les souliers du divin Sauveur. Saint Paul, cet apôtre privilégié, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel et qui, après avoir entendu les secrets de la divinité, se croyait le dernier des apôtres, indigne de porter ce nom et s'estimait un néant. Saint Grégoire, pape, qui mit plus d'empressement à fuir le suprême pontificat que les ambitieux n'en mettent pour arriver aux premiers honneurs. Tu invoqueras Saint Augustin, qui arrivait au fait de la gloire par ses louanges, par les louanges qu'il recevait de ses contemporains, et comme saint évêque et comme docteur profond, laissa au monde, en écrivant son admirable livre des Confessions et cet autre des Rétractations, un immortel monument de son humilité. Saint Alexis, qui sous le toit paternel préféra les outrages et les mépris de ses serviteurs eux-mêmes aux honneurs et aux dignités qu'ils pouvaient se procurer bien facilement. Saint Louis de Gonzague, qui, seigneur d'un riche marquisat, préféra une vie humble et mortifiée aux grandeurs du siècle, et tant d'autres saints, enfin, qui par leur humilité brillent d'un éclat particulier dans les fastes de l'Église. Sois persuadé que ces humbles serviteurs de Dieu intercéderont pour toi auprès de lui, pour t'obtenir d'être du nombre des vrais imitateurs de leurs vertus. 58. La fréquentation des sacrements de la confession et de la communion te fournira le plus abondant secours pour te soutenir dans la pratique de l'humilité. La confession par laquelle nous dévoilons à notre semblable les plus secrètes et les plus honteuses misères de notre âme est le plus grand acte d'humiliation que Jésus-Christ ait recommandé à ses disciples. La sainte communion par laquelle nous recevons substantiellement dans notre poitrine Dieu fait homme et anéanti par amour pour nous est une merveilleuse école d'humilité et un puissant moyen de l'acquérir. Et comment pourrais-tu douter que ton aimable Jésus ne veuille te la communiquer quand son cœur sacré, si doux et si humble, reposera en quelque sorte sur le tien, et que tu la lui demanderas avec toute la ferveur de tes affections? Approche-toi le plus souvent possible de cet adorable sacrement, et pourvu que tu y portes les dispositions nécessaires, tu y trouveras toujours cette manne cachée, réservée seulement à ceux qui la cherchent avec empressement. 59. Du reste, aie toujours courage contre les difficultés que tu éprouveras dans les pratiques que je t'ai enseignées jusqu'à présent et contre les oppositions que tu trouveras en toi-même. Garde-toi bien de dire ce que disaient les timides disciples. Cette doctrine est dure et qui peut l'écouter et la pratiquer ? Jean 6:61. Je t'assure que toutes les amertumes que tu éprouveras dans les commencements se changeront bien vite en douceurs ineffables et en consolations du ciel. Une sainte persévérance dans ces exercices te délivrera des mille peines d'esprit et répandra dans ton cœur tant de paix et tant de tranquillité que tu croiras goûter déjà le plaisir éternel que Dieu a préparé dans le ciel à ses fidèles serviteurs. Si, par lâcheté, tu cesses d'employer les moyens nécessaires pour devenir vraiment humble, tu seras toujours ennuyé, inquiet, mais content, et tu seras insupportable à toi-même et aux autres. Et, ce qui est le plus, tu courras un grand danger de te perdre éternellement. Ou tout au moins, sois certain que la porte de la perfection te sera fermée, car on n'y entre que par l'humilité. Arme-toi donc d'une sainte ardeur, et ne te laisse pas abattre. Lève les yeux au ciel et vois là-haut Jésus-Christ qui, chargé de sa croix, t'enseigne le chemin de l'humilité et de la patience, chemin qui a été parcouru par tant de saints qui aujourd'hui règnent avec lui dans la gloire. Vois comme il t'engage à marcher par la même route et par celle des vrais imitateurs de ses vertus. Vois les saints anges comme ils désirent ardemment ton salut. Vois comme il te supplie d'entrer dans cet étroit sentier qui est le plus sûr, le seul sûr, et le seul qui mène au ciel et au siège d'éternelle gloire laissé vacant par l'orgueil des anges révoltés. Et n'entends-tu pas les bienheureux chanter dans le ciel qu'ils ne sont parvenus à cette gloire immense que par les humiliations et les souffrances? Vois comme ils se réjouissent avec toi pour les premiers désirs que tu as eus de les imiter. Et vois comme ils te conjurent de ne pas te perdre à dessein. Arme-toi donc de force et de courage pour commencer sans retard cette grande œuvre. Souviens-toi des engagements sacrés de ton baptême et tremble à la pensée de violer la sainteté de ses promesses. Sache que Jésus-Christ a dit d'une manière expresse que le royaume du ciel souffre de violence. Bienheureux et mille fois bienheureux tu seras si, convaincu de tout ce que je t'ai enseigné, tu mets tous tes soins à pratiquer l'humilité pour arriver à l'éternelle grandeur du ciel. Enfin, dernier chapitre 60. En dernier lieu, réfléchis que notre divin maître recommandait à ses disciples de se regarder comme des serviteurs inutiles, même après avoir accompli tous les commandements. Luc 17:10. Ainsi toi-même, quand tu auras pratiqué ces avertissements avec la plus grande exactitude, tu devras avouer que tu es un serviteur inutile. Persuade-toi bien que tu ne dois ni à tes forces, ni à tes mérites, mais à la bonté gratuite et à l'infinie miséricorde de Dieu d'avoir observé ces recommandations du Seigneur. Remercie toujours le divin maître d'un si grand bienfait et rends-lui grâce avec toute la tendresse et l'effusion de ton cœur. Enfin, prie-le tous les jours de vouloir bien te conserver ce trésor jusqu'au dernier moment. Quand ton âme délivrée de tous les liens qui la tenaient, attachée aux créatures, pour apprendre librement son vol vers le sein de son Créateur, pour jouir éternellement de la gloire préparée aux humbles.